c'est la joie de se retrouver aussi et de pouvoir partager. Bienvenue pour cette journée. Cette journée pour Dieu. Voilà, donc nous allons entrer dans cette journée directement en nous confiant au Seigneur aussi, en lui demandant sa présence au cœur de ce qui est. Voilà, au cœur de ce qui est dans chacune de nos vies, au cœur de ce qui est aussi dans notre monde. C'est la grande puissance et la grande grâce de l'incarnation. C'est Dieu qui vient prendre chair de ce que l'on vit, au cœur de ce que l'on vit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous comble de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, que nous comble de joie.
Ce refrain m'est venu comme ça à l'esprit en me disant, eh bien voilà, l'œuvre de Dieu c'est quand même aussi sa création et c'est sans cesse de venir retravailler le cœur de l'homme, et eh bien ça c'est quand même une belle œuvre à partir de ce qui est. Et nous le verrons encore au combien à travers ce chapitre 7 de l'encyclique Fratelli Tutti, où on voit combien encore le pape vient nous inviter aussi à nous laisser travailler pour davantage d'humanité. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu quand même au cœur du monde, c'est de mettre l'humanité toujours plus forte. Et voilà, s'il a pris sur lui cette humanité, c'est bien qu'elle a un prix immense à ses yeux et qu'il a le souci d'en faire une œuvre toujours plus belle. Alors, pour raccrocher le wagon avec le chapitre précédent et la journée pour Dieu du mois d'août, dans le sixième chapitre, c'était le chapitre sur le dialogue et l'amitié sociale. Le pape François avait bien souligné l'importance de pouvoir accueillir la différence, parce que le dialogue aussi suppose qu'il y ait la place à l'autre qui est différent, dans la reconnaissance aussi que malgré sa différence et ce avec quoi je ne suis peut-être pas en accord avec lui, eh bien il a quelque chose à apporter, et on verra qu'il remettra encore l'accent sur cette dimension-là dans le chapitre 7. Et donc ce dialogue invitait à abandonner d'une certaine manière tous les chemins d'exclusion. Voilà. Dialoguer avec l'existence de la différence. Et en particulier, il avait attiré l'attention sur les plus fragiles aussi, les plus pauvres, dans ce dialogue. Il avait aussi rappelé qu'il y a des principes éthiques incontournables et qui ne sont pas liés aux circonstances. C'est-à-dire, où que l'on soit, quoi que l'on vive, il y a des balises éthiques incontournables. Tout ça, c'était dans ce que nous avions vu avec le Père Philippe au mois d'août, le chapitre 6, dialogue et amitié sociale. Et alors, donc le chapitre 7, il l'intitule comme ceci, des parcours pour se retrouver. Voilà. L'enjeu de se retrouver. Il y a des parcours qui sont à inventer, qui sont à vivre, qui sont à créer, pour lesquels, il va souligner au fil de ce chapitre, il y a un engagement à la fois de société, on y viendra, mais aussi un engagement de personne. Hein, voilà. Pour se retrouver. Je lis avec vous d'abord le numéro 225, qui est un petit peu une tête de chapitre et qui donne un peu les enjeux. En bien des endroits dans le monde, des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures sont nécessaires. Il faut des artisans de paix qui soient disposés à élaborer avec intelligence et audace, ça veut dire ça n'ira pas de soi, il faut des artisans de paix qui soient disposés à élaborer avec intelligence et audace des processus pour guérir et pour se retrouver. Voilà. Donc, se retrouver ne se passera pas sans qu'il y ait des parcours de paix. Et ça, c'est vraiment l'accent qu'il vient mettre dans tout ce chapitre, dans tout ce chapitre 7, et des parcours de paix, où il nous invitera à bien ouvrir les yeux, qui ne sont pas des parcours de paix naïfs, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, non. Des parcours de paix, et c'est le premier élément qu'il souligne, qui nécessite d'ouvrir bien les yeux sur la vérité. Il soulignera combien il n'y a pas de parcours de paix qui soit possible sans qu'il y ait un regard en face de la vérité. Un regard lucide sur la vérité. Du reste, dans ces quelques lignes que je viens de lire, hein, il dit bien combien, en différents endroits dans le monde, mais alors nous autres, on peut ramener ça à ce qui est pour nous, hein, en différents endroits dans le monde, en différents endroits dans nos familles, en différents endroits dans nos paroisses, en différents endroits dans nos communautés, en différents endroits dans nos lieux, je ne sais lesquels, hein, là où nous sommes. Voilà. Des parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures. Ça veut dire qu'il faut quand même voir les blessures. Ne pas faire l'autruche, quoi. Devant la vérité qui blesse, puisque l'enjeu c'est de se retrouver, il y a des raisons, peut-être, pour lesquelles on s'est éloigné. Hein. Donc des parcours pour se retrouver, qui vont passer... Nous dit le pape par ces parcours de paix. Et son premier point, c'est repartir de la vérité. Voilà. Les numéros suivants seront ceux-là. Alors je lis avec vous un passage du numéro 226, là vers la 8e ligne. Ceux qui se sont durement affrontés doivent dialoguer à partir de la vérité claire et nue. Voir en face les choses. Ce n'est qu'à partir, un peu plus bas, ce n'est qu'à partir de la vérité historique des faits qu'ils pourront faire l'effort. Ah, ça demandera un effort. Il n'y a pas de parcours de paix sans effort. Ce n'est qu'à partir de la vérité historique des faits qu'ils pourront faire l'effort persévérant et prolongé. Ça, c'est important d'entendre. Parce que cet effort, il nécessitera persévérance et prolongation. Hein? La paix à construire, elle ne s'obtient pas en deux coups de cuillère à peau. Donc ce n'est qu'à partir de la vérité historique des faits qu'ils pourront faire l'effort persévérant et prolongé de se comprendre mutuellement. Voilà l'enjeu. Se comprendre mutuellement. Mutuellement. Il n'y en a pas un qui doit seulement comprendre l'autre. Se comprendre mutuellement. Et de tenter, à partir de cette compréhension mutuelle, de tenter une nouvelle synthèse. Voyez ? De tenter une nouvelle synthèse, c'est-à-dire quelque chose d'inédit. Quelque chose de plus haut que ce qui a été jusqu'ici, et de plus grand que simplement le point de vue de l'un ou le point de vue de l'autre. Mais par cet effort persévérant et prolongé d'une compréhension mutuelle, eh bien, voilà, de tenter, c'est pas gagné. Ça, il faut l'accueillir aussi. C'est pas gagné. On n'a pas la maîtrise là-dessus. Mais par ce biais-là, de tenter une nouvelle synthèse. Pour le bien de tous. Voilà. Une nouvelle synthèse pour le bien de tous. Ça me fait penser à un autre numéro que j'ai lu un peu plus loin, que j'essaye de retrouver si je le retrouve. Voilà. Je le retrouve au numéro 245. Je fais ici un pont avec le numéro 245 où le pape nous redit combien cette dimension d'une unité et donc d'une nouvelle synthèse, mais qui transcende les points de vue, si vous voulez, hein, par cette compréhension mutuelle, est quelque chose qui lui tient à cœur. Donc je lis avec vous au numéro 245, à plusieurs reprises, nous dit le pape, j'ai proposé un principe indispensable pour construire l'amitié sociale, deux points, voilà ce principe, l'unité est supérieure au conflit. L'unité, il y a quelque chose de supérieur au conflit. Et ici, il invitait à tenter une nouvelle synthèse, hein, pour le bien de tous, donc qui va aussi unir. Hein. Donc, à plusieurs reprises, 245, j'ai proposé un principe indispensable pour construire l'amitié sociale. Ce principe, l'unité est supérieure au conflit. Il s'agit de la résolution à un plan supérieur, nouvelle synthèse, si vous voulez, quelque chose d'inédit. Il s'agit de la résolution à un plan supérieur qui conserve en soi les précieuses potentialités des polarités en opposition. Voyez ? Cette synthèse nouvelle, ou ce plan supérieur auquel le pape invite par la rencontre et l'effort persévérant de la compréhension mutuelle, ne va pas gommer les polarités en opposition, mais à partir de la compréhension mutuelle, va créer quelque chose de supérieur. Voilà. Donc, il s'agit de la résolution à un plan supérieur qui conserve en soi les précieuses potentialités des polarités en opposition. Qu'est-ce que déjà rien que ça, ça nous fait travailler sur le regard qu'on porte sur l'autre avec lequel on n'est pas d'accord. Je continue au 245. Nous le savons parfaitement. Chaque fois que, en tant que personne et communauté, nous apprenons, c'est donc un apprentissage, à viser plus haut que nous-mêmes. C'est ça l'enjeu finalement, c'est viser plus haut que nous-mêmes. Et que nos intérêts particuliers, donc chaque fois que nous apprenons en tant que personne ou communauté à viser plus haut que nous-mêmes et que nos intérêts particuliers, la compréhension et l'engagement réciproque se transforment. En un domaine où les conflits, les tensions et aussi ceux qui auraient pu se considérer comme des adversaires par le passé peuvent atteindre une unité multiforme. J'aime beaucoup ces mots qu'il met ensemble. Une unité multiforme. Voilà. Il s'agit de l'unité, et l'unité est supérieure au conflit, ne va pas supprimer les polarités en opposition, mais voilà, appelé à construire une unité multiforme. C'est fort de mettre ces deux mots l'un ensemble, l'un avec l'autre. Et cette unité multiforme, continue le pape, qui engendre une nouvelle vie. Voilà. Quelque chose de neuf, une nouvelle vie. Qui engendre une nouvelle vie. Donc, pour se retrouver, nous dit le pape François, il y a des processus de paix qui sont à mettre en place. Ces processus de paix nécessitent de repartir de la vérité historique des faits, pour que dans un travail persévérant et prolongé, on puisse apprendre à se comprendre mutuellement, voilà, mutuellement, et tenter. Il faut accepter que ce n'est pas gagné d'avance, et tenter une nouvelle synthèse. Pour le bien de tous. Dans cette nouvelle synthèse, peu à peu, peut se construire une unité multiforme qui va engendrer une nouvelle vie. Merci. Est-ce que jusqu'ici ça va? Je reviens au numéro 226, puisque j'avais fait un peu parenthèse en allant au 245. Numéro 226, je le continue là où j'étais resté. La réalité, c'est que le processus de paix, voilà, j'aime beaucoup ce mot-là, il avait parlé d'un parcours de paix qui était nécessaire. Un parcours, c'est un parcours. Et ici, il souligne cette dimension de parcours en parlant de processus. Voilà. Ce processus, le processus de paix, est un engagement qui dure dans le temps. Voilà. Un engagement. C'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice. Alors, il abordera, on y viendra tout à l'heure, hein, mais toute l'importance de la vérité, toute l'importance de la justice et toute l'importance de la miséricorde. L'un étant nécessaire autant que l'autre pour avancer dans ce processus de paix. Donc, je ferme la parenthèse, je reprends uniquement maintenant le pape François, je continue un peu plus loin. La réalité, c'est que le processus de paix est un engagement qui dure dans le temps, c'est un travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes. L'importance, la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas une espérance commune plus forte que la vengeance. Voilà l'enjeu. L'enjeu, c'est de déjouer le piège de la vengeance. Voilà, c'est ça qu'il vient souligner. Processus de paix. Un travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas, à une espérance commune. Voyez, espérance commune. Plus forte que la vengeance. Et tout à l'heure, il signifiera aussi, je vais essayer de retrouver, parce que là je fais un pont de nouveau avec un autre numéro de ce chapitre, où il nous parle de la manière ajustée d'entrevoir la justice, hein, dans les conflits. Je vais essayer de retrouver ça rapidement. C'est l'appareil derrière qui sonne. Ça veut dire qu'il faut que nous ventilions. C'est que nous dépassons les 900 ppm. On va ouvrir la fenêtre. Voilà. Vous savez qu'avec les mesures du Covid, on est tenu, comme dans les restaurants, etc., à mettre un détecteur de CO. Et voilà. Alors, que ça ne nous distrait quand même pas trop. Père Philippe va peut-être couper la sonnerie, il y a une option sur le truc. Voilà. Alors, j'essaie de retrouver ça. Voilà, on va essayer de garder le climat. Hein? Voilà. Oui, je le retrouve quand même. Ça va de la justice, hein. J'embraye là avec un passage du numéro 241 et 242. Voilà. C'est dans le chapitre que nous développerons cet après-midi, mais j'en fais le lien maintenant, puisque on a évoqué ce travail patient de recherche et de vérité, là au numéro 226, hein, travail patient de recherche de la vérité et de la justice qui honore la mémoire des victimes et qui ouvre pas à pas une espérance commune plus forte que la vengeance. Et là, je fais un lien avec le numéro 241 et 242, dont je vous lis certains extraits. Il ne s'agit pas, puisqu'il parle ici du pardon, on y vient tantôt, il ne s'agit pas de proposer un pardon en renonçant à ses droits. Voilà, justice, vous voyez ? Nous sommes appelés à aimer tout le monde sans exception. L'évangile regorge d'interpellations en ce sens. Mais aimer un oppresseur, ce n'est pas accepter qu'il continue d'asservir. Vous voyez ? C'est important ça. Et la justice va intervenir là quelque part. Ce n'est pas non plus lui faire penser que ce qu'il fait est admissible. Il nous dit des évidences, mais qu'il est bon de réentendre. Au contraire, l'aimer, aimer cet oppresseur, l'aimer comme il faut, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer. Aimer l'oppresseur, c'est œuvrer de différentes manières pour qu'il cesse d'opprimer, c'est lui retirer ce pouvoir qu'il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. En étant oppresseur, lui-même est défiguré comme dans son humanité, voyez ? Parce qu'on n'est pas humain pour cela. Pardonner ne veut pas dire lui permettre de continuer à piétiner sa propre dignité et celle des autres, hein, parce qu'en étant oppresseur, forcément il piétine la dignité des autres, l'oppresseur, mais il piétine sa propre dignité aussi. Ou laisser un criminel continuer à faire du mal, non, c'est pas tout ça pardonner. Celui, continue le pape dans le numéro 241, celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits. Et on refait le lien là, avec la justice. Celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits parce qu'il doit préserver la dignité qui lui a été donnée. Défendre mes droits, c'est faire droit aussi à la dignité de ma personne. Voyez ? Voyez, je... Dernièrement, je ne vais pas prendre d'exemple, mais c'est clair, on n'est pas à se laisser écraser sous la carpette parce qu'on est chrétien. Et en même temps, si le pape insiste, et nous y venons cet après-midi, sur la nécessité du pardon dans le parcours de paix et le processus de paix, en même temps, il souligne avec force que celui qui subit une injustice doit défendre avec force ses droits parce qu'il doit préserver la dignité qui lui a été donnée. Si un malfaiteur m'a fait du tort à moi, ou à un être cher, personne ne m'interdit d'exiger justice. Oui. Personne ne m'interdit d'exiger justice et de veiller à ce que cette personne ou tout autre ne me nuise de nouveau ou fasse le même tort à d'autres. Il faut le faire, dit le pape François. Il va même plus loin. C'est pas seulement personne ne peut m'empêcher d'exiger justice, mais il dira il faut le faire. Et le pardon non seulement n'annule pas cette nécessité de justice, mais l'exige. Le pardon non seulement n'annule pas cette nécessité de justice, mais l'exige. Et c'est pas rien. Et donc, on voit hein, les trois mots qui ressortent pour ce processus jusqu'ici hein, de paix, qui est un chemin patient, qui demande persévérance pour une compréhension mutuelle. C'est vérité, repartir de la vérité. C'est toute cette dimension de justice qui honore la dignité des victimes, quelle qu'elle soit. C'est toute cette dimension aussi, dont on viendra tantôt plus fortement, de miséricorde, de pardon, qui donne la place à l'autre d'exister. Au sens étymologique, la miséricorde, c'est aussi donner la place à l'autre d'exister. Hein? L'ensemble, vérité, justice, miséricorde. Mais, continue le pape, l'importance que celui qui a été offensé, subit une injustice et doit défendre, etc. Et pour préserver la dignité qui est la sienne, que c'est même un devoir finalement. Le pardon non seulement n'annule pas cette nécessité, justice mais l'exige. Et puis, dans quel esprit maintenant? 242. L'essentiel, c'est de ne pas le faire par un besoin pathologique de détruire l'autre qui déclenche une course à la vengeance. Voyez ? Mettre en œuvre un processus de justice, non par vengeance. Il parle là d'un besoin pathologique. Voyez ? Il dira donc, l'essentiel, c'est de ne pas le faire, ce chemin de justice et d'exiger justice par un besoin pathologique de détruire l'autre. Vous voyez ? De détruire l'autre qui déclenche une course à la vengeance. Là, on est parti dans un cercle de non-vie quelque part. L'enjeu, c'est finalement d'aider chacun, victime et oppresseur, à mettre en œuvre ce qui doit l'être pour que la dignité de chacun grandisse. Et non pas la vengeance. Voyez. Personne n'obtient la paix intérieure ni ne se réconcilie avec la vie de cette manière. Si c'est un besoin pathologique de détruire l'autre, alors, voilà, je ne recevrai pas la paix intérieure. La vérité, continue le pape au 242, c'est qu'aucune famille, aucun groupe de voisins, ni aucune ethnie, encore moins aucun pays, n'a d'avenir si le moteur qui unit, agrège et couvre les différences est la vengeance et la haine. Donc, si le moteur c'est la vengeance et la haine, il n'y a pas d'avenir. On doit laisser purifier le moteur. Hein? On doit laisser purifier le moteur qui nous fait entreprendre une action en justice contre une personne qui nous a opprimés, que sais-je, et cette action en justice est nécessaire. Le pardon, nous dit le pape, l'exige même. Hein? Mais quel est le moteur? C'est la haine et la vengeance. Ça ne construira rien, même pas pour toi. Tu ne recevras pas la paix intérieure. Voilà. Et il continue, hein. Et donc, en fait, il va nous inviter à vivre toutes ces démarches, vérité, effort de compréhension mutuelle, pardon, miséricorde, justice, mais animé d'un moteur. Alors ça demande une conversion pour chacun, surtout quand on a été abîmé, blessé, d'un moteur de bonté. Et il y a quelque chose à cultiver de la bonté, vous voyez ? Ça, c'est ce qu'il dira, par exemple, au numéro 243. Je suis désolé, je fais une longue parenthèse dans ces numéros 240 et de poussière, mais 243. Il nous dit que dépasser l'héritage amer, un héritage amer, c'est vraiment amer, les injustices, dépasser l'héritage amer d'injustice, d'hostilité et de défiance, laissé par le conflit. Le conflit a laissé un héritage amer. Vous voyez ? Tout conflit va laisser un héritage amer d'injustice, d'hostilité et de défiance. L'enjeu progressif, hein, j'aimais bien ce qu'on a entendu dans un autre numéro, pas à pas, l'enjeu sera de dépasser cet héritage amer que laisse le conflit. Ce n'est pas, nous dit-il, une tâche facile. Voilà. Donc, que nous ne soyons pas inquiets de nous rendre compte que peut-être nous n'en sommes pas là dans des conflits qui peuvent nous concerner. Ce qu'il demande, mon Dieu, mais c'est impossible. N'oublions pas que quand le Seigneur demande quelque chose à quelqu'un, c'est sûr qu'à la seule force de ses poignets, la Bible en est regorgée d'exemples, ça ne va pas. C'est en s'appuyant aussi sur lui. Mais donc, dépasser, il y a quelque chose à dépasser. Le conflit a laissé un héritage amer d'injustice, d'hostilité, de défiance. Le dépasser, cet héritage, n'est pas une tâche facile. Cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien. Vous voyez ? Vaincre le mal par le bien. Et c'est là qu'il va nous inviter à entrer dans une culture du bien pour dépasser l'héritage amer du conflit. Vaincre le mal par le bien. Et en cultivant des vertus. J'aime bien cultiver parce que cultiver, ça veut dire soigner. Hein, quand on cultive un potager, un jardin potager, ben, il ne suffit pas de semer le truc. Il faut le cultiver, il faut l'arroser, il faut aller enlever un peu les mauvaises herbes qui tournent autour. On cultive quoi, un légume jusqu'au moment de sa récolte. Hein. Donc j'aime bien. Donc, cela ne peut être réalisé qu'en faisant vaincre le mal par le bien et en cultivant les vertus qui promeuvent la réconciliation, la solidarité et la paix. Cultivons, demandons cette grâce au Seigneur de cultiver en nous les vertus qui promeuvent la réconciliation, qui promeuvent la solidarité, qui promeuvent la paix. Et donc, nous voyons combien on est vraiment dans un chantier. Hein. C'est vraiment un chantier qui nous touche tous, qui nous rejoint tous, parce que qui de nous, dans nos histoires respectives, n'avons pas quelque part des héritages amers de conflits? Voilà. Ce qui est consolant, c'est qu'en effet, c'est pas évident. Ce qui est consolant, c'est qu'il y a quelque chose qui s'y vit pas à pas pour dépasser cela. Ce qui est consolant, c'est qu'il y a quelque chose de cultivable en nous pour faire des pas sur ce chemin qui est nécessaire à un parcours de paix pour tenter une unité qui sera supérieure au conflit, qui deviendra progressivement unité multiforme. Ça veut dire on accueille l'autre avec la forme qui n'est pas la même que la mienne. Ah, c'est ça, hein, l'unité multiforme, et ça va générer une vie nouvelle. Unité multiforme, voilà. Et donc il continue au 243. De cette manière, c'est la suite de ce que je vous lisais, à celui qui l'a fait grandir en lui, la bonté donne une conscience tranquille, une joie profonde, même au milieu des difficultés et incompréhensions. Il va rester des difficultés, il va rester des incompréhensions. Mais le fait de les approcher par la vengeance ne va pas apporter la paix intérieure, dit le pape. Mais en faire grandir en soi la bonté va donner une conscience tranquille. Parce que, qu'est-ce que je ferais de... voilà, cette conscience tranquille, une joie profonde, même au milieu des difficultés, des incompréhensions, jusque dans les offenses subies, et le pape souligne, la bonté n'est pas faiblesse. C'est important ça. Vous voyez, la bonté, c'est pas s'écraser sous la carpette. La bonté n'est pas faiblesse, mais vraie force, force capable de renoncer à la vengeance. Et c'est ça qui va donner la tranquillité intérieure. C'est ça qui va donner cette joie profonde. Parce que quand on est dans la vengeance, ça ne développe pas la paix. Donc la bonté n'est pas faiblesse, elle est une vraie force capable de renoncer à la vengeance. Et donc c'est ça que le pape, je pense, veut aussi souligner quand il dit « cultivons les vertus ». Cultivons les vertus qui promeuvent réconciliation, solidarité et paix. Ça serait intéressant de se poser la question dans le jardin potager intérieur là, que nous avons tous. Quels sont les légumes qu'on cultive? Quels sont les légumes qu'on cultive dans nos relations les uns avec les autres? Voilà. Il va loin. Je continue toujours, hein, ce numéro 243, c'est la troisième partie de ce numéro. Il faut également que je reconnaisse à mon niveau que le jugement sévère que je porte dans mon cœur contre mon frère et ma sœur, cette cicatrice jamais refermée, cette offense jamais pardonner, cette rancœur qui ne peut que me nuire. Donc, il faut que je reconnaisse à mon niveau que tout cela est un nouvel épisode de la guerre en moi. Est un nouvel épisode de la guerre en moi. Un feu dans mon cœur qu'il faut éteindre avant qu'il ne s'embrase. Vous voyez, juste avant, il nous a invités à cultiver les vertus qui promeuvent réconciliation, solidarité, paix. Et ici, il vient dire finalement, si je cultive le jugement sévère que j'ai, si je cultive cette cicatrice jamais refermée, si je cultive cette offense jamais pardonnée, parce que je cultive un non-pardon, par exemple, voyez, ou un non-désir de pardon. Alors, le pardon, c'est tout un chemin, hein, attention. Mais cultiver, voyez, celui-là, je ne pardonnerai jamais. Là, je vais cultiver quelque chose. Eh bien, le pape va jusqu'à dire tout cela, si je cultive cette rancœur, qui ne peut que me nuire. Tout cela, toutes ces cultivations-là, quelque part, est un nouvel épisode de la guerre en moi. Et reconnaissons, et le pape le reconnaît, que le pardon est une tâche immense. Ça peut parfois demander un chemin de vie. Il y a peut-être des pardons qui ne se donneront qu'au-delà, dans l'au-delà. Hein? Mais cultivons les petits pas de ce chemin. Cultivons les petits pas de ce chemin. Et ne cultivons pas ou n'entretenons pas les barrières fermées à ce chemin. Parce que ça, ça va reproduire un épisode de la guerre en moi. Repartir de la vérité, apprendre à se comprendre mutuellement, tenter une synthèse nouvelle. Voilà. Et c'est un long processus, travail, et en même temps, ce travail déjà peut procurer une paix intérieure. Je reviens dans les numéros 220 et suivants là. Au numéro 227, là, le pape vient vraiment souligner que vérité, justice et miséricorde, ça se tient. Si du moins nous voulons marcher dans un processus de paix à partir de ce qui est. Il nous dit, la vérité est une compagne indissociable de la justice et de la miséricorde. Oui. Toutes les trois sont essentielles, nous dit-il, numéro 227, pour construire la paix. Toutes les trois sont essentielles pour construire la paix. Et à nouveau, il revient sur le ver qui nous ronge ou facilement. Hein. La vérité ne doit pas de fait conduire à la vengeance, voilà, le ver qui nous ronge souvent quand on est blessé, mais bien plutôt à la réconciliation et au pardon, conduire. Mais non pas sans la justice, mais la justice non pas dans un esprit de vengeance, la justice dans un esprit que la dignité humaine puisse être donnée, redonnée à tout le monde, y compris de ne pas laisser l'oppresseur continuer à démolir sa propre dignité et celle des autres. Bien sûr, d'abord celle de victime et la sienne, parce qu'en démolissant l'autre, il se démolit aussi lui-même. Alors, je vous parle encore 5 minutes pour ce matin. Le chemin de la paix ne sera pas non plus, on l'a compris, avec tout ce qu'on vient de parcourir déjà, ne sera pas le chemin d'une homogénéité de la société. Voyez ? Non. Ce chemin sera un chemin où l'on apprend à travailler ensemble, avec les différences. C'est ce qu'il nous dit au numéro 228. Le chemin vers la paix n'implique pas l'homogénéisation de la société. Il nous permet par contre de travailler ensemble. Il faut, nous dit le pape, essayer. Ah, j'aime bien parce que tout ça n'est pas. Voilà, c'est essayer, ce sont des essais, c'est tenter une synthèse nouvelle, c'est essayer à partir de ce qui est. Mais donc il nous dit, il faut essayer de bien identifier les problèmes que traverse une société pour accepter qu'il existe diverses façons de voir les difficultés. Moi, j'ai mon regard sur les difficultés, mais est-ce que j'accepte qu'il y a différentes façons de voir les difficultés et de les résoudre? Donc, essayez de bien identifier les problèmes que traverse une société. Après, on peut traduire, hein? Une communauté, etc., pour accepter qu'il existe différentes façons de voir les difficultés et de les résoudre. Le chemin vers une meilleure, je suis au 228, hein, le chemin vers une meilleure cohabitation implique toujours que soit reconnu la possibilité que l'autre, celui qui n'est pas comme moi, celui qui ne pense pas comme moi, etc., que l'autre fasse découvrir une perspective légitime, au moins en partie, quelque chose qui peut être pris en compte. Donc c'est fort, hein? Dans... Voilà, dans ce qu'apporte l'autre, il y a quelque chose qui est à prendre en compte, le chemin vers une meilleure cohabitation, et c'est ça l'enjeu de la fraternité aussi universelle, hein. Le chemin vers une meilleure cohabitation implique toujours que soit reconnue la possibilité, voilà, que l'autre fasse découvrir une perspective légitime, au moins en partie, fasse découvrir quelque chose qui peut être pris en compte. Vous voyez, ça c'est le regard a priori que je devrais avoir. Si du moins je suis habité par l'enjeu d'une cohabitation qui soit meilleure. Pouvoir alors accueillir que dans... Voilà. Et puis il y va fort parce qu'il dit « même quand il s'est trompé ou a mal agi ». Même quand l'autre s'est trompé ou a mal agi. En effet, l'autre, nous dit le pape François, ne doit jamais être enfermé dans ce qu'il a pu dire ou faire. Mais il doit être considéré selon la promesse qu'il porte en lui, promesse qui laisse toujours une lueur d'espérance. Promesse qui laisse toujours une lueur d'espérance. Bon, ça nous demande un chemin. Voilà, ça nous demande un chemin. Vous voyez, cette promesse qu'il porte en lui, voilà. Il y a quelque chose. Il y a une trace d'humanité quelque part, en chaque humain. Il y a une promesse là qu'il porte en lui, cette humanité. Est-ce que je la condamne définitivement en l'autre ? Vous voyez ? Ou est-ce que je peux accueillir un moment donné ? Un moment donné, hein ? Y compris en celui qui a mal agi. Voilà. Il y a quelque chose. En partie. Voilà, qui peut apporter. Alors c'est difficile, hein, quand on a été profondément blessé. Oui, Philippe, j'ai bien vu qu'il était l'heure, merci. C'est pas facile. Et surtout, c'est un chemin. Le chemin vers une meilleure cohabitation, nous dit le pape. Un chemin. Vous savez, de même que la foi est quelque part de l'ordre d'un mouvement, la vie est de l'ordre d'un chemin, la construction de la paix est de l'ordre d'un chemin. Le Seigneur ne nous dit pas « tu dois y être arrivé cet après-midi », mais il nous interpelle. Quels légumes cultives-tu dans le jardin potager de ta vie pour faire aujourd'hui un petit pas ? Un petit pas, celui que tu peux faire, un petit pas. Et ce petit pas, il peut déjà être très grand. Quand à un moment donné, je peux dire, mais Seigneur, je me rends compte que je cultive de la vengeance ou de la haine envers tel ou tel ou tel qui m'a profondément blessé. Eh bien, je veux déposer cette vengeance, cette haine dans ton cœur. Quel pas déjà énorme. Quel pas déjà énorme, même si aujourd'hui je n'arrive pas à cultiver du bien, mais c'est déjà un pas énorme parce que je veux signifier par là que si je suis pris dans ce mouvement-là aujourd'hui, je veux te confier ça, Seigneur, parce que je réalise que même si je ne suis pas capable d'autre chose aujourd'hui, ce n'est pas le chemin qui est celui de la vie. Et je ne suis peut-être pas capable plus aujourd'hui, mais c'est un pas. Et c'est peut-être le pas du jour. C'est énorme. Ne minimisons pas les petits pas. Ce sont ceux-là qui nous donnent d'avancer avec solidité. Alors j'atterris, hein. J'atterris, voilà. Le pape François, au numéro 231, va souligner que tout ce processus de paix, ce parcours de paix, nécessitera dans les peuples Bon, il parle aussi au niveau mondial, hein, donc les conflits entre peuples, etc., et au sein de peuples, entre ethnies, tout ce qu'on veut, mais à nous de traduire pour nous. Mais il dira que tous ces conflits nécessitent aussi que les structures de la société puissent intervenir dans ce sens. Hein, c'est ce qu'il dira, il parlera des structures, il parlera de l'architecture. Ce processus de paix nécessite une architecture, voilà, de la paix, numéro 231, où interviennent diverses institutions de la société. Il y a diverses institutions de la société qui doivent intervenir dans une architecture de la paix au cœur de nos sociétés. Mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas qu'il y ait des institutions au cœur de la société qui soient portées par ce souci, ce que le pape appelle architecture. Il faut aussi ce qu'il appelle l'artisanat de la paix. Et il dira, l'artisanat de la paix, c'est notre œuvre à chacun. Il y a les structures, et les, voilà, pour construire des chemins de paix, et ils sont nécessaires, et il les faut. Mais, voilà, mais il y a aussi un artisanat de la paix qui nous concerne tous. Ça veut dire, essayons d'être des artisans de paix. Et je termine, vraiment, le premier mot que le ressuscité a dit à ses apôtres après sa résurrection, c'est « la paix soit avec ». On le réécoutera dans l'Eucharistie. La paix soit avec vous. Si nous recevons cette paix du ressuscité, en plus comme chrétiens, eh bien, c'est notre responsabilité que de demander à ce ressuscité de nous aider à faire chaque jour le petit pas qu'on peut faire à partir de ce qui est, pour, à notre mesure, faire rebondir par un petit pas, cette paix que le ressuscité porte au monde. Voilà, cet après-midi, nous continuerons dans ce chapitre qui est très riche. Maintenant, c'est un temps de silence jusqu'à l'Eucharistie à 11h30. Le Saint-Sacrement est exposé sur l'autel, il fait beau aujourd'hui, donc il y a la possibilité de s'aérer aussi. On va bien aérer la salle aussi ici, hein, de manière à ce que tout à l'heure, quand on y retrouve, elle ait pu un peu chauffer de nouveau, et puis qu'en même temps, l'aération nécessaire dans ces mesures actuelles soit réalisée. Il y aura deux prêtres disponibles pour les confessions. Moi-même, je ne serai pas disponible ce matin pour les confessions, mais il y a l'abbé Pierre Vandenberg qui a accepté de pouvoir être disponible et qui sera dans le bureau d'accueil, je crois, et le père Philippe qui sera au bureau du prédicateur, juste ici derrière. Voilà, et on se retrouve à 11h30 pour l'Eucharistie. À tout de suite. Philippe, tu viens couper ton chose. On essaye de garder le silence, s'il vous plaît, par respect pour ceux qui ont soif d'un temps de silence qui fait partie de leur cours aujourd'hui.